Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout.
J'ai quelqu'un dans mon voisinage qui a fait un test de radon. Je sais pas la réponse, mais ça me questionne.
C'est quoi le radon exactement?
Le radon, c'est un gaz qui est déclenché, pas qui est déclenché, mais qui est dégagé par le sous-sol. C'est un gaz qui est naturel, qui monte des formations en dessous de la maison. Là. Donc, c'est généralement des formations rocheuses qui sont plus propices pour dégager du radon. C'est un gaz inodore, qui on le voit pas, on n'est pas capable de mesurer sa présence à moins de faire un test spécifique pour ça. Et le radon, là, pour vrai, c'est plus répandu qu'on pense. Il y a 18 % des demeures mesurées qui dépassent la directive nationale sur le radon. Donc, ce gaz-là qui
peut être cause de cancer du poumon.
Il cause le cancer du poumon. On l'appelle le tueur silencieux. C'est la plus grosse cause de cancer du poumon après la cigarette. C'est le radon, littéralement. Et il y a des experts qui s'inquiètent parce qu'ils disent, pour vrai, avec l'arrivée du télétravail, il y a de plus en plus de gens qui sont exposés plus longtemps en travaillant à la maison.
Dans le sous-sol.
Si t'as du radon chez vous, ce serait pire. Et il y a vraiment une trousse. Ça s'infiltre donc par des ouvertures de la maison, des fissures dans des dalles de béton, dans des fondations, dans le puisard, le vide sanitaire, des joints de construction, même par les robinets, entre autres. Il faut pas penser que si ta maison est neuve, il y a moins de chances que t'en aies.
C'est comme une loterie.
Généralement, donc, le télétravail, je l'ai dit, qui augmente les risques. Il y a une trousse qui est disponible. Là. C'est vraiment...
Si tu reçois ça par la poste, puis là, ils disent ça que les instructions, c'est assez pointu là, savoir où tu l'amènes.
C'est un capteur que tu installes selon les directives. C'est sur une période de 3 à 12 mois. Ça peut quand même être assez long.
À nous, c'était 303 jours. On nous disait
quand même.
300 jours. C'est ça qu'on nous expliquait là, qu'il fallait faire. Donc, c'est rester installé là.
Vous l'avez fait chez vous?
L'a fait. Moi, vous dire, c'est compliqué à installer parce qu'il y a beaucoup de restrictions, comme tu disais, Billy, là, mais on dit que la norme, OK, c'est si vous dépassez 200 BQ par mètre cube. Alors, c'est l'unité de mesure, c'est des BQ. Là. Demandez-moi pas c'est quoi. Si vous dépassez ça, là, il y a une problématique.
Des baleines à queue, probablement.
On est arrivé au résultat.
T'as-tu un beau cul, finalement?
On a un très beau cul. Nous, on a 56.
Fait que vous êtes bien en bas de la norme.
Fait que ça nous a rassurés, ce qui fait que...
Même en rajouter encore, là.
Mais Tammy, est-ce que tu sais que si t'avais été dans une transaction pour ta maison, t'es obligé de le déclarer. Et même plus que ça.
C'est vrai?
Ouais, t'es obligé de le déclarer. Et si vous vous apprêtez même à acheter une maison, il est possible de déposer une offre en planifiant la mise de côté d'un montant qui pourrait être nécessaire pour... corriger ça.
Mais comment qu'on
fait le test?
Ça?
Ben, écoute.
Pour fermer la pierre, tu sais, en dessous de ta maison.
C'est vraiment il y a Yannick qui va nous jaser dans un instant. Lui, il en a trouvé chez lui et qu'est-ce qu'il a dû faire et combien ça coûte. Il va nous partager ça dans un instant. Mais l'outil, c'est trouvable. Là, vous tapez radon, là, c'est assez facile à trouver sur le site de l'Association pulmonaire canadienne, québécoise, en fait, même en plus. Mais vous tapez radon, là, ce test-là, la trousse, c'est super facile à trouver. On jase avec Yannick qui, malheureusement, en a trouvé chez lui. Mais il a réparé l'affaire. Ça a coûté combien? Il nous jase de ça.
T'es comique? De retour après ceci.
Debout les comiques!
96.9, c'est quoi?
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Le podcast Debout les comiques.
Jazz radon, on a parlé donc de ce gaz-là qui se retrouve dans 18 % des maisons en quantité trop élevée et qui représente un risque pour la santé. C'est 1000 personnes par année au Québec qui décèdent à cause de l'exposition au radon. C'est quand même beaucoup de gens. Généralement, c'est un cancer du poumon que ça déclenche.
Mais là, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe si t'en as? Combien ça peut coûter? On peut-tu réparer ça? Il y a Yannick qui est en ligne. Salut Yannick.
Oui, bonjour.
Salut, ça t'est arrivé, toi. T'en as trouvé chez toi?
Oui, on a fait les tests, puis on était à la limite, fait que on a on a fait l'installation d'une cheminée de captation de radon.
Hey, c'est quoi ça, cheminée? Ouais.
Mais en fait, ce qu'ils font, c'est ils perdent des trous dans le béton au sol. Et okay. Nous, ils ont mis un aussi sur le béton du garage. Et c'est un tuyau d'ABS d'à peu près 6 pouces.
OK.
Puis ils mettent sur ce tuyau-là un ventilateur qui fait une aspiration. Puis ça capte le gaz qui est en dessous de ta dalle de béton dans la maison.
Fait que c'est comme une petite pompe à vide à air, mettons, là.
Oui, c'est ça. Mais ça aspire le en dessous du vide de ta dalle de béton.
Mais c'est ça, mais Yannick, donc il faut que tu perces des trous sur ton sol, sur tes.
Je veux c'est
des gros travaux quand même.
Ben en fait, les personnes qui l'ont fait chez moi, ça a très bien été. L'installation a été rapide, facile. Mais ben, je pense que c'est facile là, mais ça coûtait à peu près 2000$ si je me souviens. Puis, faut savoir, c'est que le radon là, on est sur une veine d'uranium là au Québec. Puis c'est la dégradation de l'uranium après sa demi-vie. Il y a 7 étapes si je me trompe pas.
Okay.
Fait que c'est quand même un résultat de l'uranium.
Puis là, toi, quand t'as fait ça, Yannick, c'est super intéressant. As-tu refait ton test après que ta cheminée a été faite chez vous, puis ça testait comment par rapport à avant?
Oui, le test après ça, il était en bas de la norme, là, beaucoup, beaucoup en norme, presque nul.
Okay.
Il faut savoir en Europe, la norme est beaucoup plus haute. Là. Je veux dire, notre norme est basse relativement à d'autres places.
Je la répète, c'est 200 BQ par mètre cube.
Je me rappelle plus exactement combien le degré doit être. Là,
oui, mais... je l'ai. C'est vraiment confirmé. Là. C'est sur le bidule, nous, qu'on a fait.
OK, c'est ça. Fait que nous, on était limite, mais on a deux ados qui dorment au sol.
Ben oui.
Ouais, c'est ça.
Tu veux pas ça? Ben écoute, Yannick, c'était super intéressant pour vrai. Puis donc, c'est 2000$ quand même un bon investissement. Mais Christy, la santé, à un moment donné...
Pour te sauver un cancer du poumon, je pense que...
Ouais. Absolument. Merci Yannick d'avoir pris du temps pour nous ce matin, c'est super apprécié.
Ben, ça me fait plaisir.
Merci beaucoup. Salut. Bye bye. Caroline, man, m'a dit une affaire, ça m'interpelle parce que bon, je vais le faire le test là, écoute.
Moi ce qui me rassure c'est que peut-être qu'on a du radon mais on a aussi un poêle au gaz. Fait que j'imagine les deux s'annulent.
S'additionne.
Il y en a plusieurs qui nous écrivent sur la messagerie texte des contracteurs qui disent qu'avec les nouvelles constructions, ils font systématiquement ce que nous expliquait Yannick. Ils vont passer ça par le grenier.
Okay.
C'est vraiment... Informez-vous là, si vous êtes dans ce processus-là de construire une nouvelle maison. Là, assurez-vous que ça fait bien partie du processus de construction.
Ça va ta voix, un peu de radon.
Ben oui.
Excusez-moi, c'est le cancer du poumon.
On fait un karaoké pendant la chanson tantôt.
T'es comique? De retour après ceci.
Debout les comiques!
96.9, c'est quoi?
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Le podcast Debout les comiques.
Ce mois-ci est décédée à l'âge de 118 ans, la doyenne de l'humanité, et ça a lancé le débat chez les scientifiques. Est-ce qu'on pourrait atteindre les 140 ou 150 ans de vie avec une manipulation génétique? À ça, je réponds, on veut-tu ça? J'ai pas 50 ans et le chou-fleur commence à me donner des gaz. Il va m'arriver quoi à 135 ans? Je vais fuzzer mortellement, genre? J'ai pas 50 ans puis plus rien m'impressionne. Les Olympiques, ça me tape ses nerfs parce que je me dis que j'ai déjà vu mieux. Imagine si je suis en réalité au tiers de mon existence à 50 ans.
Ça va être lourd.
Ah, je vais pousser un soupir par année qui va durer 8 mois.
Un par année.
Pelaille. J'ai une tante qui, à 90 ans, était complètement démente. Là, elle avait peur des infirmières. Elle disait que c'était toutes des sorcières. tu t'offres ça parce qu'elle a 90 ans. Tu sais qu'il y reste 3-4 ans. Pas qu'il y en reste 60. 60 ans avec la vieille folle qui te traite de sorcière. Moi, j'y garocherais des activants au fond de la gorge aux 4 heures.
Oh, surtout que vous l'aviez placé à Salem.
Oh, imagine comme incohérente,
ben
finalement.
Oui, ce temps-là avait raison.
Ben oui. Puis on va se le dire, les vraies affaires, là. Un vieux, ça pue. Ça sent le renfermé et le souris. On fera pas la langue de bois. Non, non. Imagine à 162 ans, ça pue tellement que ça goûte. Ben oui. La peau est plus tachée. C'est juste une grosse tache de 162 ans. Le corps, il doit être dégueulasse. Un genre de bébé hamster. Ben oui. Tu sais, plus de poils. Aveugle, avec des touffes de poils à des endroits random. Mais le reste, c'est comme juste de la peau. Là. Vous le voyez? Ouais. Oui. Économiquement aussi, ça marche pas, cette affaire-là.
Ah, non, non.
Mais
non.
Mais non, un pompier, ça prend sa retraite à 48 ans. On va y payer une pension pendant un siècle au pompier. À moins qu'on repousse l'âge de la retraite.
Ouais.
Ah. Oh oui, vous êtes là, oui. Mais est-ce que je veux voir un bonhomme de 130 ans rentrer dans un building en flammes? Non, à la base, un vieux, c'est sec. Écoutez mon raisonnement. L'envoyer dans le feu, c'est comme envoyer une poche de bois d'allumage dans l'incendie. Tout le monde est perdant. OK? Puis, il me semble qu'on étire la vie par le bout le moins le fun. Ah? Aussi, si on veut aller jusqu'à 100...
T'sais, prolongeons la vingtaine.
Exact. Je veux pas me rendre jusqu'à 160. Je veux vivre ma trentaine, disons, plus que ma vingtaine. T'sais, je veux qu'elle dure 30 ans, ma trentaine. Ouais. Ça serait un bon deal.
Okay, ouais.
Ce qui est long est pas nécessairement bon. C'est ça que je veux dire. Mettons, Avatar, c'est beaucoup plus long que bon.
Ouais.
Je pense qu'on est mieux de se pencher sur la qualité de vie que de l'étirer à tout jamais. C'est ce que je veux vous dire.
Ouais. Hey, surtout tourner ta page.
C'est ce que je veux vous dire.
Et ça, Billy, on le voit pas à la radio. Sauf si tu fais les didascalies.
Il y a quand même une caméra là, puis là, ça va être sur le net dans une heure à peu près.
Tu t'en rappelleras pas dans 160 ans.
Hey, puis imaginez ça, 150 ans, le nombre de générations qui se côtoieraient.
Oui,
c'est bien. Le début de la toute de mes aïeux finirait jamais par partir.
Ton arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père.
Ils peuvent toutes la chanter en même temps, c'est ça?
Ça serait capoté. Donc, conclusion, pour moi, 150 ans, c'est non. Je sais pas pour vous, mais moi, vraiment, c'est non. Tuez-moi avant de me rendre.
Ben moi, c'était pas là, moi, c'est oui.
Le podcast Debout les comiques.
Je vous raconte une histoire, ça s'est passé au lac Saint-Jean. C'est une femme qui s'est retrouvée en cour, qui a finalement perdu son permis de conduire avec une amende de 1 500 $. Perdu son permis de conduire pour un an, je vais vous le dire, là, pour alcool au volant. Mmh, okay. Mais elle a quand même des circonstances, à mon sens, atténuantes. Et je vous raconte son histoire. Elle a 42 ans, elle est en train de souper à maison chez eux avec son conjoint. Son conjoint devient agressif. Vraiment. Il pogne les nerfs après au point de la pitcher bord en bord de la cuisine en la tenant par les bras. Puis elle snap bord en bord de la cuisine. Elle a fait comme « OK, ça va trop loin ». Elle s'en va dans sa chambre. Elle commence à faire une valise pour sacrer son camp. Son conjoint est après elle. Bra, 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 bra. Encore, la tension monte. Elle a peur. Elle embarque dans l'auto. Elle voit encore dans la fenêtre. Elle s'assoit dans l'auto, là, puis elle sait qu'elle est en état d'ébriété. Puis écoute bien, elle appelle le 911. Elle téléphone au 911. Elle dit, écoutez, je m'appelle tel, je suis à telle place. J'ai pas le droit de le faire, mais je m'enlève d'une situation que je trouve dangereuse. Mon conjoint me fait peur. Elle déplace son auto de 500 mètres. La police la rejoint. La police a fait comme, bon, ben OK, madame, vous êtes maintenant en sécurité. Là, on va traiter votre dossier d'ivresse au volant.
Non.
Et donc, elle est passée en cour. Le juge a dit, ben, vous auriez pu aller à station-service, là, au bord de la rue, aller chez un voisin,
ben voyons,
aller à un poste de pompier qui était pas tellement loin. Il y avait d'autres options que de prendre votre volant. Puis là, il y a quelqu'un, une spécialiste en droit de l'UQAM, a dit, pour vrai, je trouve que ça manque d'empathie, ça. Elle sait,
oui,
là, elle, pour vrai, l'urgence dans laquelle elle est, c'est de se tasser des pattes de quelqu'un qui va y en sacrer une.
Puis de rentrer dans un autre habitat. Tu sais, je veux dire, quitter la maison où t'es pas en sécurité pour rentrer dans un habitat où tu vas être en sécurité.
Où tu vas être,
aller au poste d'essence, c'est pas pareil, t'es encore à nu, là.
Et donc, le juge, écoute, l'affaire de violence conjugale, c'est une chose, mais ça, il a procédé, puis a dit, c'est de l'hyper, c'est hyper linéaire, comme jugement. Il a tenu compte d'aucune circonstance.
C'est rigide. Oui, c'est rigide.
Tu réagis comment pour vrai à ça? Je suis curieux d'entendre nos auditeurs pour vrai. 790, c'est quoi? Le texto 96.9.
Mélie écrit, c'est carrément se fermer les yeux sur un vrai problème, là.
Mais en même temps, t'as pas le droit d'être, mettons, d'avoir deux fois la limite permise, c'est ce qu'elle avait, puis d'être seulement dans ton véhicule. T'as quand même pas le droit
d'être. Ouais, mais t'es dans une situation de peut-être de vie ou de mort, là.
Je comprends que j'ai pas le droit de voler, mais si je suis en train de mourir de faim, je vais bien la prendre, la bartende, là, dans le dépanneur, puis je vais aller leur expliquer qu'il faut que je la mange.
790-2564.
C'est donc bien choquant, ça.
Elle s'est signalée, puis elle l'a dit elle-même, elle reconnaissait tout ça. Et puis parce qu'elle s'est reconnue ça, la condamnation était automatique.
Le podcast Debout les comiques.
Ça fait beaucoup réagir en studio, puis il y a plein d'hypothèses qui nous montent en tête. Je vous rappelle cette femme de 42 ans qui est dans une mécanique de violence conjugale. Elle veut s'en extirper. Comment? Elle prend les clés du char, puis elle tasse de 500 mètres. Elle va juste se tasser avec une valise sommaire. Elle avertit même le 911 en disant « Hey, regarde, je le sais que j'ai pas le droit de faire ça. Je suis probablement en état d'ébriété. » Ça a été avéré. Elle avait deux fois la limite permise dans son sang. Le juge a été quand même vraiment linéaire dans son jugement, selon une experte en droit de l'UQAM. Elle a dit qu'il aurait pu faire preuve un peu de jugement, littéralement.
Circonstances atténuantes.
Circonstances atténuantes. Mais je suis curieux de vous entendre. Il y a Michel qui est en ligne pour nous jaser. Elle étudie en droit, Michel. Donc, allô, Michel.
Bonjour. Salut. Bon matin. Ça va bien, la gueule?
Ça va bien. Michel, t'en penses quoi de cette cause-là? À vue de nez, là, on n'a pas tous les détails, mais quand même.
Écoute, moi, je trouve ça très inhumain de la part du juge, dans le sens que, de un, comme j'expliquais quand j'ai appelé, là, la dame, elle a des recours à faire une demande d'appel sur le jugement, c'est-à-dire d'avoir un autre juge qui va rendre un jugement sur ce jugement-là qui a été rendu, qu'on juge tout, on va s'entendre.
Toi, tu penses qu'il y a un motif d'appel dans cette cause-là? Oui. Là?
Il y a un motif d'appel absolument, parce que quand tu te sens en danger ta propre personne, tu peux pas réfléchir de manière, tu sais, on agit sur le coup de l'adrénaline puis de la panique.
Ça pourrait être reçu. Mais écoute, on l'espère que ça va se dérouler dans ce sens-là. Merci, Michel, d'avoir pris du temps pour nous.
Merci, ouais, Michel.
Ça fait plaisir. Merci à vous autres, la gang. Bonne journée.
D'ailleurs, un peu dans le même sens, si vous êtes nombreux sur la messagerie texte, dont Juliette a dit, pour moi, c'est comme considéré comme la légitime défense. T'sais. C'est comme si, pour se défendre, là, il faut bouger la voiture. Fait que le juge aurait dû être clément et empathique. Mais en même temps, excuse-moi.
Ben, c'est juste, je me disais, on parle beaucoup du jugement, mais moi, je trouve que les policiers aussi qui ont été au-devant de ça, tu le vois, là t'es en plein dans la situation.
Oui, mais les policiers, là, moi, ce que j'imagine, c'est que l'appel 911, il est enregistré.
Ben oui.
Donc, elle dit, je suis en état d'ébriété. Les policiers qui vont sur le fait, s'ils ne donnent pas de constat d'infraction, c'est comme si ils sont, tu sais, je veux dire, ils sont tributaires de l'information qui est déjà enregistrée.
Okay, ouais.
Alors là, tu sais, après ça, tu dis, c'est pas à nous d'être juge et parti, même si on
après ça, ça devient mécanique selon ce que tu dis.
On va s'en remettre au juge. Mais pour faire un contre-argument à ce que tu disais, Valérie, là, il y a Carl Miranda qui fait, oui, je comprends tout ça, que c'est peut-être de la légitime défense, mais si t'es en état d'ébriété puis que tu frappes un enfant dans 500 mètres, est-ce que t'es-tu coupable? Il est arrivé rien, là. Fait que là, on monte aux barricades, mais s'il est arrivé quelque chose, il y a quand même négligence de sa part, même s'il est en situation
mais
de...
S'il arrive un féminicide, tu sais... Je veux dire, on en est où? Dans le si, dans le si,
t'as
dans
raison,
le si.
On est là-dedans, Mais le juge, je pense qu'il n'a pas été dans le si, lui. Le juge est allé dans ce que j'ai d'en face. C'est, puis il nie pas là, le danger qu'elle vivait, mais la réalité, c'est il y avait d'autres options. C'est son jugement. Puis écoute, ça nous fait réagir à matin, puis c'est normal. Puis
mais pour nous, c'est des circonstances atténuantes. On dirait qu'on est unanime ici. Il y a quelque chose qui est sévère, là, tu sais.
Ouais. La justice. Puis il y a quelqu'un qui nous a écrit, il dit, écoute, le juge a suivi le livre de la justice, puis il dit, si on fait pas ça, le sens de la loi, ben écoute, il n'y a plus rien qui tient. Là. On va tout le temps avoir une circonstance atténuante. Je sais pas, ça se débat, Michel.
Mais quand tu en vas de ta vie,
je veux dire, il y a
quelque chose...
Hey, moi, je serais comme, enlève-moi le permis.
Bah, c'est vrai, selon moi, elle a pris la meilleure des décisions. Ouais. C'est plate ce qui arrive, mais elle a vraiment pris la meilleure des décisions.
Le podcast Debout les comiques.
Tu vas nous parler de rédemption. Rédemption, est-ce que c'est possible de pardonner à quelqu'un?
C'est une histoire qui s'est passée au Massachusetts. C'est un homme qui s'appelle Patrick Clancy qui fait les nouvelles, les manchettes un peu partout à travers le monde. Là, je veux dire, on en parle ici. Parce qu'il a parti une page GoFundMe pour aider sa famille. Okay? Sa famille, lui, c'était parce qu'il avait trois enfants. Cora, 5 ans. Dawson, 3 ans. Et Callen, 8 mois. Et il dit, ma femme a tué mes trois enfants. Il dit, tu sais, il dit dans la page GoFundMe, là, il dit, le choc, la douleur, c'est atroce. Je me souviens constamment de mes enfants. Puis là, j'arrive pas à dormir, évidemment. Mais tu sais, lorsque je dors un peu, je rêve d'eux en boucle. Ils étaient l'essence de ma vie. Je suis complètement perdue sans eux. Et il explique que sa femme, Lindsay Clancy, 32 ans, c'est elle qui a mis fin à ses enfants en les étranglant. Elle a étranglé ses trois enfants au domicile familial la semaine dernière. Juste après ça, elle a tenté de se suicider. Elle habitait dans un deuxième étage. Elle s'est jetée en bas du deuxième étage. Donc, elle a survécu. Il y a deux des enfants, Cora Dawson, qui sont décédés à l'hôpital juste un peu après les crimes. Puis le bébé de 8 mois, lui, a succombé plusieurs jours plus tard à ses blessures. Et tout ça est arrivé pendant que son mari s'est absenté pendant 25 minutes. Il voulait aller chercher des petits plats pour emporter pour pouvoir nourrir sa famille, bien évidemment. Et elle aurait commis l'irréparable à ce moment-là. C'est lui qui a appelé le 911 dès qu'il a été de retour à la maison.
Il s'est absenté, donc on comprend qu'il fallait pas qu'il s'absente, quoi?
Elle souffrait d'une psychose postpartum ou encore d'une dépression. Fait que c'est comme un genre de mélange des deux au moment des meurtres présumés, donc, parce qu'elle n'est pas encore jugée coupable. Puis là, ce qu'on apprend aussi, c'est que elle était dans un groupe 5 jours par semaine pour tenter de faire, de gérer les problèmes.
Un groupe d'aide, là, parce que c'est pas simple.
Oui, exactement. Quand t'as un bébé naissant, là, tu peux vivre plein d'enjeux. Et donc, elle a vécu ça. Et lui dit dans le GoFundMe, ma femme était généreuse, aimante, attentionnée envers tout le monde, envers moi, envers nos enfants, envers notre famille, nos amis et ses patients, parce qu'elle était infirmière en néonatologie.
Il y a plein de couches là-dedans.
Ouais. Notre tête a de la difficulté à assimiler tout ce que tu nous dis. Puis là, le papa, il répète, ma femme participait à un programme en santé mentale 5 jours par semaine pour tenter de s'aider. Il faut lui pardonner.
Tu sais, je te ramène à la question que tu nous posais, là, de lui pardonner.
Est-ce qu'on lui pardonne?
Moi, j'ai l'impression que le postpartum est méconnu encore.
Et voilà.
Et comment je te dirais ça? Donc, ça excuse pas le geste, mais ça l'explique. Puis là, puis tu sais, moi je l'ai pas vécu, mais j'ai vu des gens proches de moi. Moi, il y a une femme que je connaissais de mon entourage, puis je connaissais parce que c'est à elle qu'elle s'en est pris à un moment donné.
Ah oui.
Puis elle a réussi, là. Tu comprends? Je veux pas aller plus loin, là.
Ouais.
Mais je l'ai vu ce que ça peut faire dans un individu qui est par ailleurs équilibré, par ailleurs aimant la vie. Puis ce passage-là. Quand il y a quelqu'un de votre entourage qui vit ça, pour vrai, moi, j'aurais tendance à lui pardonner. Ouais. Je comprends le gars. Si, en plus, est en néonatologie, c'est-à-dire que lui, il en a entendu parler aussi. Sa femme est dans un groupe d'aide. Puis, probablement que dans sa pratique à elle, elle en a relaté de ces histoires-là de maman qui se relève pas, Christy, après, là, tu sais, puis
de toute époque. Je comprends son choix de pardonner, tu sais, lui, il cherche la paix, tu sais. Mais moi, je sais pas si je pourrais continuer de rester avec cette personne-là, là, même
pas.
Si tout ça est expliqué, même
toi,
si.
Toi, tu la quitterais pas, mettons, en cours.
Je parle à ma tête, puis je dis, bon, il y a des faits qui expliquent, on dirait que, mon Dieu, c'est une blessure suprême, tu sais.
Vraiment.
C'est la plus grande blessure, perdre des enfants, tu sais. Je veux dire,
ça vient teinter toutes les autres choses que tu vas faire avec cette personne-là.
Fait que moi, je l'admire de pardonner. Probablement que ça fait partie d'un cheminement.
Toi, tu serais pas capable.
Est-ce qu'il continue de vivre avec elle? Est-ce que
on sait pas.
D'avoir des projets, de penser à l'avenir. On dirait que je serais tout le temps, je suis brisée. La relation est brisée.
En tout cas, c'est quand même un processus intéressant, je trouve, ne serait-ce que d'en parler, puis d'y réfléchir, puis de voir que cet homme-là crée le GoFundMe. Est-ce que ça va permettre de parler encore plus davantage des psychoses postpartum, tu sais, parce que la dépression postpartum, c'est une affaire, mais les psychoses, il y a plusieurs femmes qui le vivent aussi. Fait que, tu sais, ça aussi, ça fait partie des grands sujets dont on doit parler.
Il y aura aussi, de toute façon, la justice qui va se prononcer là-dedans.
Ouais,
fait qu'il y a sa part de chemin à lui, puis le reste, ben la société fera le.
Mais c'est clair que tu m'ébranles, t'es amie pour vrai, effectivement, là, puis trois enfants, là, tu fais
c'est ma vie, là, tu sais, c'est mon.
Il y a de l'énergie, il y a de l'anticipation, il y a du rêve, exactement.
Il y a Bastien qui nous écrit, il dit, j'ai vécu une dépression, c'est terriblement difficile, il dit, je comprends, je pourrais aussi pardonner, étant donné ce qu'il a vécu.
Absolument.
C'est propre à chacun, rendu
ouais, là. vraiment.
C'est spirituel aussi.
Ouais, il y a un gros bout, effectivement, que c'est ça.
Le podcast Debout les comiques.
C'est pas le temps de vous parler parce qu'on est en plein gala. Debout les caves!
Oh oui! Robitaille de Mirabel, première à nous lancer cette blague, l'histoire de la maîtresse qui dit à ses élèves que celui qui se sent stupide se lève. Ben, il y a Jules qui se lève dans la classe. La maîtresse lui demande « Ah, Jules, tu te trouves stupide? » Ah, Jules y répond « Non, je me trouve pas stupide. C'est juste que ça me faisait de la peine de vous voir toute seule debout, madame.
Jules a eu zéro.
Une joke qui vient de Dominique Ross. Il dit « Hey, Dominique, Il dit, c'est le gars qui vient d'avoir une promotion au travail, comprends-tu? Il est content, le gars, il vient d'avoir une promotion. Il est heureux.
Ouais.
Il est là à son bureau, il dit, ce que je pourrais faire? Il dit, prends le téléphone, OK? Il se met à faire un numéro de poste au hasard, il fait, mettons, 222. Là, il y a un gars qui répond à l'autre bout de la ligne, qui dit, oui, allô. Alors là, le gars qui vient d'avoir la promotion, il dit, hey! Monte ton gros cul ici avec un café, puis deux bangs. Là, le gars à l'autre bout de la ligne, il fait excuse-moi, est-ce que tu sais à qui tu parles? Le gars de la promotion, il dit m'en fous de savoir à qui je parle. Monte ton gros cul avec un café, puis deux bangs. Le gars à l'autre bout de la ligne, il dit hey, tu parles au président de la compagnie. Le gars de la promotion, il dit ah ouais, puis toi, tu sais à qui tu parles, hein? Là, l'autre gars, il fait « Non, je sais pas, mais on va bien ça de savoir. » Fait que le gars de la promotion, il dit « Phew, OK, bye! »
Il y a Annie qui nous propose, c'est un Américain qui arrive à Paris, puis il prend un taxi, tu sais, puis tu sais comment que c'est les Américains. Le taxi passe devant l'Arc de Triomphe. Le touriste, il demande « Mais c'est quoi ça? » Le Français, il répond « Ben, c'est notre Arc de Triomphe, tu sais. Ah ouais, vous avez mis combien de temps pour construire ça? Presque 30 ans, je pense. Ah, OK, ben, chez nous, ça prend 3 jours, là, mais c'est correct. Le taxi continue, passe devant Notre-Dame. Le touriste, il dit « C'est quoi ça? » Le Français, il dit « Ben, c'est Notre-Dame de Paris, la cathédrale, tu sais. Vous avez mis combien de temps à construire ça? Ben, près d'un siècle, probablement, là. Ah ouais, chez nous, à la fin de même, c'est 6 jours, là. » Le chauffeur de taxi commence à être trouvé gossant, tabaslac. Il passe devant la tour Eiffel. Le touriste dit « Hey, c'est quoi ça? » Le chauffeur de taxi dit « Hey, je sais pas, c'était pas là hier, c'est... »
Wow! Wow!
C'est bon!
Wow! Moi, je vous raconte la blague de Yannick ce matin. C'est l'histoire d'un newfie. Un newfie qui marche dans la rue et il passe devant un distributeur de canettes. Il s'arrête, il n'en revient pas. Il se dit, ben voyons, c'est donc ben bizarre. À quoi ça peut servir, cette affaire-là? Fait que là, c'est écrit, il faut mettre une petite pièce. Fait que là, il prend une pièce, il la met dans la machine, il appuie sur un bouton au hasard et une canette tombe.
Wow.
Il est comme, hein? C'est donc ben drôle. Fait que là, il remet une pièce dedans, il appuie sur un autre bouton et une autre canette tombe. Il est comme, ben voyons donc, une autre! Il remet une pièce, il pèse sur un bouton. À un moment donné, il y a un passant qui le croise et il dit, ben voyons, monsieur, vous avez dépensé beaucoup comme ça. Il dit, hey, moi, du moment que je gagne, je joue!
Ah, une petite vite, on a tout le temps?
Ben, ouais,
Martin, ben, ouais, je me pose la question tout le matin, on a tout le temps le temps. C'est tout le temps prévu.
Ben, ouais, ouais, ouais.
Ah, ouais, c'est ça.
Ah, ben, c'est tout le temps qu'on avait.
Martin de Blainville qui nous demande c'est quoi la différence entre un zeb et une barmaid?
Je sais pas.
Ben, le zeb a des barres autour du trou de cul, puis la barmaid a des trous de cul autour du bar.
Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'estquoi.com.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.